Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Avec notre invitée ce soir dans Au bout de l'actu, Karine Berger, députée PS des Hautes-Alpes. Bonsoir et
bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
Merci d'être à nos côtés. Alors, on l'imagine, hier soir, vous étiez devant votre écran de télévision. Vous avez probablement suivi ce débat qui peut se résumer ainsi. Scission et désunion autour de deux gauches qui se seront affrontées avec des idées bien différentes. Vous êtes aussi dans cette expectative de savoir comment cette scission pourra retrouver une cohérence à la fin, finalement, de la primaire de la gauche qui aura lieu pour le second tour dimanche.
Alors dimanche, il y a effectivement le second tour. D'abord, permettez-moi quand même de saluer tous les électeurs walpins qui se sont déplacés 4000 dimanche dernier. Je les invite à revenir dimanche et même amplifier le mouvement. Alors écoutez, moi, le débat d'hier soir, je l'ai trouvé d'abord d'excellent niveau. J'ai été frappée, je crois que tous les commentateurs d'ailleurs, compris les commentateurs de droite, ont reconnu que le débat était très bon niveau. Et c'est vrai que les désaccords sont assez profonds entre Manuel Valls et Benoît Hamon, mais en même temps, le respect qui a accompagné ce débat m'a vraiment donné l'espoir qu'on puisse tous se rassembler dès lundi. À ce stade, il n'est pas écrit qui va gagner, mais je crois que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, l'effort qu'ils ont fait hier pour admettre que le débat d'idées pouvait se faire dans la même famille, qu'on ne se déchirait pas, qu'on ne s'insultait pas, est un très bon signe pour la semaine prochaine. Mmh.
Vous saluiez à l'instant les électeurs qui se sont déplacés. Vous espérez, après le cafouillage qui a eu lieu pour le premier tour de la primaire, qu'ils seront aussi nombreux. Je parle de ça parce qu'il y a eu ce qui a été dénoncé comme un épiphénomène par Marie-Jo Allemand, qui est en charge de ces élections dans les Hautes-Alpes, d'une démission, celui du président du bureau de la Bâtie-Neuve, Pierre Duvic, qui lui se dit choqué par la façon dont ça s'est déroulé, alors pas tant dans le territoire, mais surtout sur les hautes instances à Paris. Est-ce que vous craignez pas que ce soit un désaveu et que les électeurs se disent, après tout, ça sert
alors,
à rien?
Déjà, première chose, permettez-moi là encore de remercier tous les bénévoles. Et ils étaient très nombreux qui ont tenu les bureaux de vote dimanche dernier et qui vont les tenir de nouveau dimanche prochain. Pour votre information, il y aura plus de bénévoles qui nous aideront à tenir les bureaux de vote dimanche prochain que dimanche dernier. Donc là, c'est déjà un signe. Le cas de M. Duvic était finalement effectivement un épiphénomène, puisqu'on savait depuis le départ, c'est moi qui lui avais demandé lors d'un concert de Noël à la Bâtie de tenir le bureau, il m'avait déjà fait part du fait que ça n'intéressait pas beaucoup. Donc on n'est pas très étonnés, cela n'excuse pas les cafouillages informatiques au niveau national, mais il n'y a pas eu de bidouille, il n'y a pas eu de tricherie, c'est simplement un problème informatique. Et ce qui est certain, c'est que sur la Bâtie-Neuve, le problème est tout à fait réglé, puisque Joël Bonafoux, qui est maire de la Bâtie-Neuve et conseiller départemental, s'est proposé très naturellement pour prendre la présidence du bureau de vote de la Bâtie.
Cela dit, ce malaise existe tout de même vis-à-vis du Parti Socialiste. Si on prend en compte aussi une déclaration, celle du député et président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, Gilbert Sauvan, qui s'est livré auprès de nos confrères de France 3. Disons que finalement, déçu par ces débats, il se pourrait qu'il rende sa carte du Parti Socialiste. Comment vous traduisez cette écœurement, lui qui pourtant est un soutien de Manuel Valls depuis le début?
Parce que je pense que certains n'acceptent pas l'idée que leur champion pourrait perdre. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Gilbert Sauvan. Il a une longue carrière politique derrière lui. Maintenant, je ne comprends pas ceux qui quittent le navire simplement parce que leur camp ne gagne pas. Et je les comprends d'autant moins que les électeurs, eux, se sont déplacés. Vous savez, j'ai passé une très grosse partie de la journée dimanche dernier à discuter avec les électeurs qui sont venus à Gap. Il y a vraiment le cœur de l'électorat de la gauche de gouvernement, de la gauche d'avenir, qui s'est déplacé, qui en veut, qui veut aller à la bataille de 2017. Et je crois que les élus qui quittent le navire sans explication autre que « c'est pas mon camp qui l'emporte », commettent une erreur.
Il parle de déception tout de même, vis-à-vis des débats et de la tenue de ces mêmes débats et des idées qui ont été mises en avant.
Je pense sincèrement que là, pour le coup, c'est une excuse, une grossière excuse, parce que les débats se sont très bien passés. Et encore une fois, l'avis sur le débat d'hier soir est unanime, y compris de gens de droite qui ont dit que c'était encore meilleur que le dernier débat de la droite.
Donc, alors parlons de vous aujourd'hui, justement. Vous avez fait partie de l'équipe de campagne de Vincent Peillon, qui ne fait pas partie de ce second tour. Dimanche dernier, vous ne saviez pas pour qui vous allez donner votre voix dimanche prochain. Aujourd'hui, vous en êtes où?
Moi, je pense que je n'exprimerai pas mon vote dimanche, tout simplement parce que je reste en désaccord avec Manuel Valls sur beaucoup de questions, la façon de gouverner, sur la question de la laïcité, etc. Mais je dois bien le reconnaître, en désaccord avec Benoît Hamon sur ses propositions économiques. Et donc, je ne me reconnais pas ni dans l'un ni dans l'autre. Ce n'est pas le sujet pour moi. Mon rôle, à partir de la semaine prochaine, c'est d'avoir exprimé mon idée, c'était la ligne de Vincent Peillon, et de me mettre derrière le gagnant lundi, que ce soit Benoît Hamon, que ce soit Manuel Valls, alors même que j'ai des désaccords de fond avec eux, ils auront mon soutien plein et entier. Et je mettrai toute mon énergie à organiser le soutien de notre candidat sur l'ensemble du département dès lundi.
Avec quand même une petite réflexion hier soir que vous avez faite sur Twitter lors du débat, qui consiste à dire il faudra arriver à convaincre Manuel Valls que malheureusement, le machisme n'a pas de religion.
Oui,
qu'est-ce que vous vouliez dire à partir de cette
parce
déclaration?
Parce qu'en fait, chaque fois qu'on aborde la question de la laïcité, et donc en fait, soyons clairs, dans le débat d'aujourd'hui en France, la question de la façon dont l'islam est ressenti, la place de l'islam est ressentie par certains de nos concitoyens, et la façon dont certains manipulent cette religion à des fins tout autre que la religion, on arrive tout de suite sur la question de l'égalité homme-femme. Mais la question de l'égalité homme-femme n'a rien à voir avec une religion en particulier. Ou plus exactement, elle a à voir avec toutes les religions. Il n'existe pas de religion progressiste en matière d'égalité homme-femme. Et malheureusement, le machisme peut être totalement athée. Donc, je suis très gênée par l'approche qui est celle de Manuel Valls dans ce débat, et qui l'a été très très fortement au début de cette semaine, il faut bien l'avouer, avec des attaques très dures contre Benoît Hamon, sur le fait qu'il y aurait un lien direct entre la question générale du débat autour de l'islam et la question de l'égalité.
C'est-à-dire que vous voterez blanc?
Non, je pense que je voterai, mais je ne dirai pas forcément pour qui.
Alors, on ne connaîtra pas votre voix, mais par contre, on peut connaître votre avis sur certaines propositions des candidats, notamment en termes de travail. Selon vous, lequel défend le mieux le travail? Benoît Hamon, notamment, veut abroger la loi travail. Selon lui, c'est une loi qui facilite le licenciement, qui fragilise également les salariés. On sait que vous avez regretté le 49-3. Pour autant, vous avez défendu aussi cette loi travail.
Tout à fait. Ben, je suis d'accord ni avec l'un ni avec l'autre sur la question du travail. Je suis en désaccord total avec la proposition de Manuel Valls, qui est de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le travail en plus pour chacun qui compte, c'est le travail pour... Enfin, c'est donner un boulot à tout le monde. Il y a des gens qui manquent de travail. Je discutais encore avec quelqu'un, là, il y a quelques heures sur Gap, qui ont bien annoncé qu'elle passe en CDD, enfin, pardon, en temps partiel. Elle a un problème tout simplement de trouver du boulot. Donc, je ne suis pas d'accord avec la défiscalisation des heures sup. Je ne suis pas non plus d'accord avec le fait que dans la loi travail, il faut tout arrêter. La discussion au sein des entreprises est, à mon avis, un sujet qui est un vrai sujet de progrès. Et j'étais plutôt d'accord avec la CFDT sur le fait que la discussion au sein des entreprises pour organiser le travail est une bonne approche. Donc non, je ne suis pas non plus d'accord avec Benoît.
Et cette idée de Benoît Hamon aussi d'arriver à un 32 heures. Garde le 35 heures, mais on peut permettre aux entreprises d'aller aux 35 heures par temps partiel.
Sur le principe des 32 heures appliquées à tout le monde unilatéralement, j'étais contre. Mais c'était pas ça. Et c'était ce que j'ai compris dans le débat d'hier soir, comme quoi j'ai appris quelque chose dans le débat d'hier soir. En fait, ce qu'il propose, c'est de dire, voilà, il y a des moments où l'entreprise devra réorganiser le travail, parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Et dans ce contexte-là, on peut très bien lui donner la possibilité d'aller sur 32 heures. Et là où il est assez malin, Benoît Hamon, c'est que ça se passe déjà. Il existe déjà des entreprises qui organisent, qui font de la négociation pour faire en sorte qu'il y ait moins d'heures pour chacun, mais du boulot pour tout le monde. Et cette approche-là, qui n'est pas en fait l'approche 32 heures comparable à celle des 35 heures de 97, eh bien je la trouve très intéressante. Oui,
et elle met en lumière aussi ce qu'il a mis en avant, alors peut-être que vous partagez d'ailleurs cette idée, sur la raréfaction du travail. Alors d'ailleurs les deux candidats partagent cette idée à venir que le travail sera plus rare demain, mais c'est plutôt sur la méthode qu'ils s'opposent. Vous êtes d'accord avec cette idée, la raréfaction est inéluctable?
Ben en fait, la raréfaction du travail est inéluctable, et c'est ce qu'on observe depuis 50 ans. C'est-à-dire que la quantité d'heures travaillées par personne n'a jamais cessé de baisser depuis 1950. Partout en Europe et notamment en France, avec des à-coups. Enfin, le mouvement est inéluctable au sens propre. Donc, qu'il soit accéléré par la révolution numérique, je le crois. Et ça signifie, et c'est pour le coup bien ce que Benoît Hamon a porté à ce débat de la primaire, que nous avons, nous, la gauche, un devoir de responsabilité à proposer de nouvelles solutions aux futures générations.
Il s'est d'ailleurs appuyé sur une étude du Forum économique mondial. 7 100 000 emplois seront détruits dans les pays les plus riches d'ici 2020. 2 millions qui seront créés, donc ça fera un solde de environ 5 millions d'emplois supprimés. Est-ce que ça veut dire aussi, comme Benoît Hamon l'a dit, qu'il faudra taxer les machines parce que les machines créent du chômage?
Mais non, parce que là, pour le coup, l'erreur qui est commise macroéconomiquement par Benoît Hamon, c'est de mélanger ce qui est la création de valeur et la création d'emplois. Vous pouvez créer beaucoup, beaucoup de valeur avec en fait pas peu de création d'emplois. Il se pose bien la question de savoir comment on répartit cette valeur entre les gens, parce que tout le monde n'aura pas un emploi à temps plein, ou en tout cas, mais il ne se pose pas il se pose à mon avis de manière incorrecte la question quand il dit il faut taxer du coup la création de valeur en trop. C'est pas vrai. Il faut au contraire que la valeur continue à être créée, Il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut que cette valeur soit répartie de manière différente. C'est pour ça que je suis de gauche, c'est que je pense qu'on peut tout à fait continuer à créer de la valeur, mais on doit savoir à quoi cette valeur et à qui cette valeur est attribuée.
Est-ce que son positionnement aussi n'est pas le mauvais quand il parle de reconnaître les maladies professionnelles? Je vous pose cette question parce qu'au lieu de reconnaître les maladies professionnelles, est-ce qu'on ne devrait pas aussi faire en sorte qu'elles n'existent pas, qu'elles n'arrivent pas? Vous avez parlé à un moment de déconnexion du travail,
tout
de
à
droit
fait.
À la déconnexion.
Tout à fait. Non, alors c'est une très bonne question que vous soulevez et c'est une question très pratique pour la plupart des gens qui nous écoutent. Ça a été abordé hier soir par les deux candidats, mais surtout par Benoît Hamon, il faut bien reconnaître. La question de la prévention, on en est quasiment à l'état préhistorique en France dans la prévention contre toutes les maladies et notamment les maladies au travail. Moi, j'ai plaidé lors du débat de la loi travail pour qu'on aille beaucoup plus loin sur la déconnexion, que la vie privée soit protégée et l'équilibre personnel soit protégé par rapport au monde du travail qui ne cesse de nous envahir, notamment à cause des objets numériques. Et je crois que on sait très bien qu'il y a des gens qui sont en burn-out parce qu'ils reçoivent, quel que soit le moment de la nuit ou du jour, des informations venant de leur boulot. Ça, c'est des sujets très modernes, très actuels, qui ne touchent pas tout le monde, mais qui touchent beaucoup de nos concitoyens et sur lesquels, il faut bien avouer, nous n'avons à ce stade pas proposé de solution.
Karine Berger, notre invitée, on la retrouve dans un instant, juste après une courte pause, pour la troisième partie de Boule d'Actu. À tout de suite.
18h-19h, au bout de l'actu sur Alpe 1.
Au bout de l'actu, la suite, avec notre invitée ce soir, je vous rappelle, Karine Berger, qui est députée PS dans les Hautes-Alpes, Cyrielle.
Parlons d'économie entre ces deux candidats. Alors, ce qui était particulier hier, c'est que autant Benoît Hamon que Manuel Valls ont fait appel à un soutien qui reste encore discutable, c'est l'économiste Thomas Piketty, qui a signé une tribune notamment au Monde avec d'autres économistes, mais c'est surtout sur la position du revenu universel. Ce que dit en tout cas Thomas Piketty, c'est que la position de Benoît Hamon est économiquement crédible et socialement audacieuse. Est-ce que vous partagez cet avis de revenu universel? Alors on le dit, c'est pas vraiment universel puisque Benoît Hamon a expliqué que ce serait uniquement pour les salaires inférieurs à 2000 euros avec des montants qui ne seraient évidemment pas les mêmes pour tous, ce qui fait que ce budget de 300 à 400 milliards d'euros qui est évoqué n'est pas forcément le bon.
Avec de vraies difficultés, je sais pas si vous partagez ce regard, mais à justifier et à calculer comment tout sera pour être financé sur l'ensemble de la population à terme.
Je vais me risquer un calcul de comptable, mais même si vous vous limitez aux personnes qui ont des revenus inférieurs à 2000 euros, sur la totalité de la population, vous en avez pour 350 milliards, net, c'est-à-dire en reprenant certaines aides, hein, et si vous vous limitez à ceux qui ont moins de 2000 euros, qui correspondent quand même à 75% de la population française, voire 80%, ça veut dire que vous en avez quand même pour 300 milliards ou 280 milliards. Donc, ça ne tient pas à la route. Ce que Thomas Piketty, bon, d'abord, c'est un ami. Donc je sais que sur ces questions-là, il est très prudent. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit grosso modo qu'il n'y a pas de problématique économique a priori. D'ailleurs, Benoît Hamon l'a très bien expliqué hier soir. L'argent que vous donnez, vous le retrouvez dans le circuit économique au travers de la consommation, etc. Mais que vous avez un vrai problème qui est un problème de transfert social et de justice sociale. Et là, l'exemple qu'a donné Benoît Hamon, là encore hier soir, était très intéressant. En tout cas, moi, m'a fait réfléchir. Vraiment, je vous le dis, je ne m'étais pas posé la question comme ça. Quand il a dit, quand vous avez la grippe, que vous appeliez Madame Bettencourt ou Monsieur Valls, vous êtes remboursé de la même façon. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir si Madame Bettencourt devait être remboursée de la grippe de la même façon que Monsieur Valls ou que toute personne qui serait dans une autre situation économique et sociale. Bah oui, parce que c'est notre principe de sécurité sociale. C'est bien l'égalité de ce qu'on considère comme étant vital.
Donc il faut sortir de l'égalité, il faut rentrer dans la justice finalement.
Il faut être dans la justice et il faut être aussi dans l'efficacité. On demande à Madame Bettencourt d'aller se faire soigner contre la grippe et on la rembourse parce qu'on veut pas que la grippe soit répartie dans toute la population et on veut que les gens se soignent. On voit que d'ailleurs que ça marche pas tous les jours. Vu ma voix, vous comprenez que c'est... En tout cas, moi j'ai pas réussi à échapper au virus. Mais on est vraiment sur un sujet qui est un vrai sujet de débat. Est-ce que on a besoin d'un nouveau rééquilibrage des transferts économiques et sociaux dans notre société.
Est-ce que franchement c'est économiquement viable, vous qui êtes économiste et qui répondiez aux questions économiques pour le Parti Socialiste il y a encore peu de temps pendant le quinquennat de François Hollande, qui n'est pas fini, est-ce que c'est économiquement viable? On a eu du mal à comprendre hier comment il faisait la bascule justement.
La raison pour laquelle moi je vais vous dire non, mais je le dis avec prudence et encore une fois, on sait que c'est testé dans certains pays, donc on verra bien aussi les premiers résultats. La raison pour laquelle je vous dis non, c'est que le jour où tout le monde touche 500 euros, les 500 premiers euros ne valent plus rien. Macroéconomiquement, vous allez avoir une sorte d'inflation qui va faire que vous n'aurez plus rien en dessous de 500 euros, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites que déplacer le niveau général de vie, mais ça signifie que tous les prix de la vie courante vont mécaniquement s'enrichir, y compris le logement, etc. Donc c'est pour ça, moi je pense qu'économiquement, la proposition de Benoît Hamon à ce stade ne tient pas la route, mais que son idée, qui est de dire on doit revoir la façon dont la création de richesse est répartie dans notre pays avant même la question de la fiscalité, est une très bonne question.
Si je vous résume, finalement, en fait, il est le Parti socialiste face à ces questions socialistes qu'elle ne se posait plus.
Merci de résumer le sujet, vous le faites bien mieux que moi. On est dans socialiste, il y a social, et l'une des questions sociales des 30 prochaines années, c'est la question que Benoît Hamon porte dans cette primaire, comment on fait pour rémunérer le travail ou le non-travail.
On se souvient que lorsque vous avez fait le choix de soutenir Vincent Peillon, il y avait eu un argument massu pour vous, c'était son rapport à l'Europe et le fait qu'il était profondément européen, contrairement à celui qui aurait pu avoir votre soutien, c'est-à-dire Arnaud Montebourg. Et en ce qui concerne l'Europe, lors de ce débat, les deux finalistes de la primaire jugent l'Europe malade, le remède pour la régénérer est différent. Benoît Hamon plaide pour un moratoire sur le pacte de stabilité et le pacte budgétaire, une évolution des statuts de la Banque Centrale Européenne, ainsi qu'une mutualisation de la dette européenne et une harmonisation fiscale. Ça, c'est la proposition de Benoît Hamon. Une réaction de votre côté avant de parler de celle de Manuel Valls?
Écoutez, j'aurais la même réaction d'ailleurs pour Manuel Valls. Mes deux camarades oublient juste qu'on n'est pas tout seul en Europe. C'est-à-dire que je crois que c'est Helmut Kohl qui avait dit il n'y aura pas d'Europe allemande, et Mitterrand qui avait complété mais rassurez-vous, il n'y aura pas non plus d'Europe française. On ne peut pas faire l'Europe tout seul dans son coin. Il faut aller discuter avec des Allemands, avec des Italiens, avec des Espagnols, bon, avec des Anglais moins en ce moment, mais enfin. Et ça, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on a l'impression que ça ne rentre pas en ligne de compte.
Parce que Manuel Valls parle d'une Europe différenciée si on n'arrive pas à se mettre d'accord entre les 27.
Oui, enfin, on va se retrouver différenciés tout seul, quoi, vous voyez. Je trouve que je vais à Bruxelles lundi après-midi parce que tous les six mois, il y a des rendez-vous dans le cadre du semestre européen où je vais rencontrer, comme tous les six mois, des gens que je connais en Allemagne, en Italie, etc. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on se voit? On essaye de trouver des terrains d'entente. Moi, je peux pas du jour au lendemain expliquer aux électeurs, écoutez, moi je veux ça, et puis s'ils sont pas d'accord, ils sortent de l'Europe. Non, j'essaye d'abord de voir si avec mes collègues espagnols, italiens et allemands, et des Pays-Bas, on a quelques points d'accord ou pas.
C'est et avec c'est... eux qu'il faut s'appuyer, parce que justement, pendant le premier tour et pendant les débats du premier tour, on a entendu différents candidats s'appuyer sur différents pays de l'Europe.
Vous avez tout à fait
c'est
raison.
C'est sur l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas.
Ma conviction, c'est que on ne peut pas faire bouger la construction européenne si on n'arrive pas à convaincre nos amis allemands. Voilà. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse... Et c'est quand même ce qui manque et pour Benoît Hamon et pour Manuel Valls.
Ça vous a étonné hier quand les journalistes ont voulu parler de dette aux candidats et que la réponse de la dette de Benoît Hamon était environnement?
Il n'a pas eu tort. Il dit grosso modo, attendez, une dette, c'est quelque chose qui est un calcul financier, mais qui correspond aussi en vis-à-vis à des problématiques réelles. Et il dit, voilà, moi, j'ai la problématique réelle pour moi, c'est comment on fait pour résoudre l'énorme dégradation de l'environnement qu'on va laisser aux générations
donc
futures.
Donc on s'assoit sur la dette et on estime qu'un jour, de toute façon, elle sera effacée, quoi qu'il arrive, comme c'est déjà arrivé dans les grandes crises.
La formule qu'il a eue est une formule rigolote. On négocie avec un banquier, on négocie pas avec la nature. Enfin, malheureusement, c'est qu'on négocie pas toujours avec un banquier non plus. C'est-à-dire que la difficulté est énorme, et c'est bien pour ça que je suis pas d'accord avec sa ligne économique, c'est qu'il y a un moment ou un autre où un banquier, c'est pas un banquier. Un banquier, c'est quelqu'un qui a l'argent, votre argent, sous forme d'épargne, et qu'il prête à quelqu'un d'autre. Il y a un moment ou un autre où vous, votre épargne, vous allez refuser de le prêter à la France si la France fait n'importe quoi en matière de dette. Et donc là, c'est là où le raisonnement de Benoît Hamon s'arrête. C'est qu'il y a un moment où les gens n'accepteront plus de prêter à leur propre pays si leur propre pays s'endette trop.
Donc vous ne croyez pas à l'effacement de la dette?
Non,
à terme.
C'est la dette devra être structurée d'une manière ou d'une autre en Europe, mais il n'y aura pas d'effacement, et en tout cas il n'y aura pas d'effacement sans un accord européen très profond.
Un sujet qui risque de, j'allais dire, vous énerver, c'est peut-être pas le cas, mais qui va peut-être vous faire bondir, mais
allez-y,
il faut quand même
zut.
L'aborder. Si Emmanuel Macron est en rapport de force face au Parti Socialiste à l'issue de cette primaire, vous restez toujours dans le refus d'un consensus?
J'ai pas dit ça, j'ai dit que moi pour l'instant, on m'a surtout posé la question de savoir si le candidat socialiste devait se retirer. Non, le candidat socialiste ne se retirera plus maintenant. Je crois que la primaire est réussie, que les millions de personnes, probablement 2 millions, enfin en tout cas on va tâtonner les 2 millions dimanche prochain, je l'espère, qui se sont déplacés, n'ont pas du tout l'intention de revenir sur leurs opinions. Puis, je vais vous dire franchement, plus ça va, moins je comprends le positionnement politique d'Emmanuel Macron.
Pourtant, d'autres ont l'air de le comprendre.
Je sais,
l'instar de votre collègue dans les Hautes-Alpes.
Oui, mais justement, parlons de Joël Giraud, qui part un peu tout seul, hein, parce qu'au PRG, j'ai l'impression que c'est un peu l'auberge espagnole.
Alors, dans 04, c'est le cas aussi. Hein. Ils ont simplement signifié qu'il était peut-être parti un petit peu tôt dans ses déclarations, mais qu'en gros, il y avait toutes les chances que le PRG ait dans ce sens-là.
Il y a un député PRG qui est parti chez Macron et qui a été exclu du PRG il y a 48 heures. Donc, moi, je sais pas, c'est pas mon parti politique. Oui. Je constate simplement que M. Macron a comme soutien des gens de droite, M. Dutreil, M. Grandénon, qui était le directeur de cabinet de campagne de M. Le Maire, des gens comme M. Minc.
Oui, mais enfin, ça favorise l'idée qu'il est ni de droite ni de gauche, ou est de droite et de gauche.
Ouais, enfin, il a surtout des gens de droite, et à gauche, c'est M. Collomb qui pleure parce que 4000 euros par mois, parce qu'on lui a fait des retenues sur salaire, parce qu'il n'était pas présent au Sénat, c'est pas assez pour vivre. Donc, je ne sais pas ce que Joël, que j'aime par ailleurs beaucoup, et qui, je sais, n'est pas d'accord avec ce genre de position, va faire dans cette équipe, je vous le dis franchement. Mais c'est son problème, et moi, à ce stade, je ne comprends rien au positionnement politique d'Emmanuel Macron. Je comprends qu'il n'est pas de gauche, parce que s'il était de gauche, et s'il est si sûr de lui, bah, il aurait participé à la primaire, il l'aurait gagné, ce qu'il n'a pas fait. Oui. Donc, ça veut dire qu'il pensait qu'il ne pouvait pas gagner à la primaire de gauche, donc il pas de gauche. Et toute évidence, à droite, les soutiens qu'il reçoit sont des soutiens qui, à mon avis, ne seront pas forcément de la grosse dynamique.
Donc, si on comprend bien, Joël Giraud, Christophe Castaner ne sont plus de gauche à vos yeux, mais ça ne répond pas à ma question.
J'ai demandé ce que Joël allait faire dans cette équipe.
Mais si le rapport de force s'inverse et qu'Emmanuel Macron, par ses prestations et par notamment les meetings qu'il remplit, écrase le Parti Socialiste. Est-ce qu'il faudra faire consensus?
Alex Cam, il y a 1 700 000 personnes qui se sont déplacées dimanche dernier. Au plus gros du meeting de M. Macron, il a fait 10 000 personnes. Donc quand il aura fait 170 meetings à 10 000 personnes, il pourra être comparé aux 1,7 million qui se sont déplacés au premier dimanche.
Donc on a compris que la discussion sera difficile.
Je lui souhaite de faire 170 meetings à 10 000 personnes, mais ça ne va pas être un peu compliqué.
Ce qui ne va pas être évident. On se recentre un tout petit peu et rapidement avant de se quitter. On se recentre du côté de Gap, puisque on rappelle, vous êtes aussi conseillère municipale d'opposition. Il y a conseil demain soir du côté de Gap. Il y a un sujet dont on a déjà parlé ensemble, alors aussi bien avec Roger Didier mais qu'avec vous, qui revient sur le devant de la scène, à savoir la proposition d'armer la police municipale.
Oui.
Un mot sur ce sujet, on se souvient que vous nous aviez dit que vous n'étiez pas contre le principe, qu'il faudrait en discuter. Aujourd'hui, le principe, on est où et le curseur, on est où pour vous?
Moi, je reste très très dubitative sur l'armement de la police municipale. Je trouve qu'on est... je trouve pas que les conditions actuelles d'insécurité justifient ce type d'évolution. Et j'écouterai avec beaucoup d'attention les arguments du maire demain soir pour comprendre exactement pourquoi il bouge là-dessus.
Cette discussion aurait dû avoir lieu avant plutôt que pendant le conseil municipal?
Non, je pense que le conseil municipal sert à prendre ce type de décision extrêmement délicate. Mais,
et vous attendez quoi comme arguments?
Qui nous disent pourquoi, quels sont les risques pour lui, quels sont, grosso modo, qu'est-ce qu'ils feront de leur arme? Voilà. Une fois qu'ils seront armés, qu'est-ce qu'ils font dans leur arme?
Quelques villes, Manosque...
Qu'est-ce qu'ils font de leurs armes? Oui. Voilà. Une fois qu'ils ont l'arme, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que c'est pour être plus sûr d'eux ou est-ce que c'est pour l'utiliser?
Qu'est-ce que vous attendez de ce conseil municipal, outre cette question de sécurité?
Il y a deux gros sujets, si vous me permettez. Il y a deux très gros sujets. Il y a le débat d'orientation budgétaire de 2017, où là encore, on est vraiment sur notre fin, sur ce qui est proposé à ce stade dans le texte, puisqu'on est sur une sorte de... rien ne bouge à Gap, on n'a plus besoin de rien, ni d'investissement, ni de dépenses, rien, enfin moi je sais pas. Et puis surtout évidemment le PLU, donc c'est un énorme document, on l'a eu il y a quelques jours, on a passé quelques temps à regarder ça, à éplucher en urgence. Moi j'invite tous les Gapensais et les Gapensaises à s'intéresser au projet de PLU du maire Roger Didier, pour une raison très simple, c'est qu'on passe, je résume le PLU, densification énorme de la ville de Gap. On passe de 18 habitats à l'hectare à 25 à 25. Donc, on est sur une densification. Grosso modo, chaque fois qu'il y a un carré de libre quelque part dans Gap, on y colle du logement.
En même temps, la population a augmenté aussi.
La population a augmenté, mais la projection d'augmentation de la population de M. le maire est de 10 000. On passerait grosso modo de 40 000 à 50 000 d'ici 2032. Alors, dans ce cas-là, il va falloir des écoles, il va falloir des routes, il va falloir des équipements, il va falloir des associations.
Mais donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
Non, je dis simplement que à ce stade, ce qui est proposé, c'est un calcul très comptable où parce que Monsieur Didier imagine une ville à 50 000 habitants d'ici 2032, il veut mettre des logements partout, alors même qu'on sait qu'il y a encore énormément de logements vacants dans Gap même. Bon, donc à ce stade, le ouais. PLU n'est pas un projet de développement de Gap, c'est un calcul très comptable de où est-ce qu'on peut mettre du logement en plus. Et on aura la discussion demain soir des logements qui seront quasiment uniquement dans les mains des promoteurs. Donc je pose la question de manière non polémique à Monsieur le maire. Quel est l'objectif exactement? Est-ce que c'est de donner du boulot aux promoteurs immobiliers ou est-ce que c'est vraiment l'objectif de développer Gap?
Karine Berger, députée PS des Hautes-Alpes, était l'invitée d'Au bout de l'actu ce soir. Merci d'avoir été à nos côtés.
Merci à vous de l'invitation.
Et à très bientôt sur Alpe 1. Vous restez avec nous dans un instant. La suite à 19h, ce sera le récap de l'info. A tout de suite.